Club des poètes et vive la poésie.
Alors comme vous le savez, si vous êtes un habitué ou une habituée des émissions de podcast du Club des poètes, j'aime assez à faire revivre des moments de l'histoire de notre lieu, qui sont des moments qui moi m'ont marqué en quelque sorte et que je souhaiterais protéger de la disparition des mémoires. Et donc, j'essaie de retrouver dans les différents enregistrements qui me restent de ces périodes antérieures, des moments qui me paraissent précieux. Alors, vous savez aussi, si vous suivez un peu la vie du Club des Poètes, qu'on est constamment dans un présent très actif, où du mardi au samedi soir, on organise des soirées de poésie, et donc on est entouré de beaucoup de jeunes gens qui viennent partager avec nous leur fougue et leur enthousiasme pour faire vivre cette flamme poétique qui caractérise la vie du lieu. Et ça a toujours été un peu comme ça. Et puis, par moments, je me dis, ce qui est triste, c'est que de tous ces moments que nous vivons ensemble, eh bien, qu'est-ce qu'il va rester si je n'essaie pas de faire revivre, en quelque sorte, ces instants en les transmettant. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Alors là, j'ai retrouvé des enregistrements d'un ami qui s'appelle Philippe Tophoven, qui fréquentait beaucoup le Club des Poètes dans les années 80 et qui habite actuellement à Berlin. Alors Philippe, il nous faisait toujours découvrir des textes en prose à forte intensité poétique, je dirais, et souvent avec une connotation d'humour mais un humour un peu burlesque, c'est-à-dire un humour qui se dissimule dans une apparence de sérieux. D'ailleurs, je me souviens qu'on avait rendu hommage avec lui aussi à un poète qui s'appelle André Frédéric, qui dit des choses tout à fait fantaisistes et même parfois scandaleuses, avec le plus grand sérieux, ce qui donne un effet comique absolument irrésistible. Alors, je vais vous faire écouter d'abord un enregistrement d'un poète chinois qui s'appelle Ma Desheng, que nous a fait découvrir Philippe Tophoven, parce qu'à un moment de sa vie, Philippe Tophoven habitait en Chine, et il a fait la rencontre donc de ce poète et peintre chinois qui s'appelle Ma Desheng, qui était un des animateurs d'un mouvement poétique qui s'appelle, d'un mouvement artistique plutôt, qui s'appelle Les Étoiles, et qui a fini par devoir, ainsi d'ailleurs que tous les autres membres de ce mouvement artistique, s'exiler parce qu'ils étaient très mal vus par le régime chinois. On a rencontré Ma Desheng par l'intermédiaire de Philippe Tophoven. Il nous a écrit quand il était en Chine, donc, en nous disant: j'ai découvert un poète chinois qui me touche beaucoup et je voudrais le partager avec vous. Et ensuite, donc, quand Desheng est arrivé à Paris, eh bien, nous l'avons accueilli, on a fait une grande fête autour de lui qui nous a permis de lier une amitié qui dure encore jusqu'à maintenant. Et tout ça, c'est grâce à Philippe que c'est arrivé, puisque c'est lui qui nous a présenté Desheng. Alors, une fois, Desheng nous avait invités, ma famille et moi, dans un petit restaurant chinois qu'il apprécie particulièrement. Et à ce moment-là, ma sœur Sabine avait interprété un poème de Desheng, donc qui est suivi par l'interprétation du même poème, mais en chinois, par Desheng. Je pense que c'est un document tout à fait intéressant.
Le vent garde ton merveilleux sourire enchâssé dans une larme d'enfant. Le vent traverse l'intimité obscure des forêts pour caresser la peau du désert. Le vent enroule le soleil d'avant l'aube, puis retourne se jeter dans les bras de la nuit. Le vent préfère se donner au sommet des montagnes que de dormir à leurs pieds. Le vent décoche les mots du poète dans le bouclier des amants. Le vent attend tes regards brûlants pour les semer dans l'air limpide. Le vent couché sur l'horizon arqué regarde la lune glisser dans une enveloppe anonyme. Le vent s'égare sur la route où tu marches souvent et recherche des pas qui ne sont pas les tiens. Le vent, qui a conquis les plus antiques mensonges, s'envole vers un ciel sans étoiles. Le vent te tire du sommeil parce que ta nuit est pleine de rêves interdits. Emmanuel Pechenard.
Je vais le dire en chinois.
Ah ouais.
Feng, Bani Tian Ya de Vichiao, Xiang Chen Zai, Ying Er de Yan Lady. Feng, Chuangua Shu Lin de Yindao, Chi Chu Mo Sha Mo de Pif. Feng, Juan Chi Li Ming Chen de Tai Yang, Zai Tou Ru, Hei Ye de Huai Bao. Feng, Ning Yuan Feng Xian Gai Shan Ding, Ye Bu Yuan Shui Zai Shan de Jiao Xia. Feng, Jiang Shi Ren de Shi Ju, Shi Jin La Qing Ren de Dun Pai. Feng, Deng Dai Ni Fa Tang de Yan Shen, Ba Ta Bo Zhong Zai Tou Ming de Kong Qi Li. Feng, Zai Hu Xing de Di Ping Xian Shang Tang Wo, Kan de Yue Liang, Hua Jin Le Yi Ge Mei You Di Zhi de Xin Feng Li。风迷失在你常走的道路上，寻找不属于你的脚印。风挣脱了最古老的谎言，飞向没有星星的天空。风推行你，是因为你做了一床不该做的梦。
Alors ceux qui sont déjà venus au club des poètes ont peut-être remarqué quand ils entrent à droite.Dans le bar, un petit peu au-dessus de nos têtes, il y a une calligraphie chinoise. Eh bien, c'est un cadeau que Desheng a réalisé pour mon père Jean-Pierre René quand mon père fêtait ses 80 ans. Et l'œuvre de Desheng a fait l'objet d'une rétrospective à Beaubourg il y a quelques mois où on avait été gentiment invité. Et en ce moment, elle est exposée.Enfin, une partie de son œuvre, bien sûr, parce qu'il a une œuvre très vaste. Elle est exposée rue de l'Échaudé, à la galerie A2Z. Alors, j'étais en train de vous parler aussi de Philippe Topoven, bien sûr, qui nous a fait connaître Desheng. Et dans l'histoire de sa famille, il y a aussi quelque chose qui est très important et intéressant, c'est que son père, Elmar Topoven, a été le traducteur...en allemand, de Samuel Beckett, et donc qu'il a rencontré régulièrement Samuel Beckett, puisque, comme vous en doutez, compte tenu de l'attachement à la précision de la langue de Samuel Beckett, eh bien, il participait autant que possible, avec beaucoup d'intensité, à la rédaction de ses propres traductions. Donc, le père de Philippe Topoven, Elmar Topoven, rencontrait régulièrement Beckett, et...Philippe, qui était petit enfant à ce moment-là, a eu l'occasion une fois d'aller chez lui. Et ça lui a inspiré à la mort de Beckett un quatrain. Et une fois, on était au Club des Poètes, comme ça, et puis j'avais une petite caméra et j'ai dit à Philippe, raconte-nous ça. Et c'est ce qu'il a fait. Et voilà. Alors le son n'est pas parfait, comme beaucoup d'enregistrements de cette émission, parce que c'est toujours un petit peu artisanal. Mais écoutez.Le témoignage de Philippe qui rencontra Beckett quand il était enfant et puis aussi dont la vie et la mort inspirèrent à Philippe le quatrain suivant.
Double hommage à mon père et à Beckett. Donc à Beckett et à son serviteur. Donc je dis le quatrain, il s'appelle...La verrière. Une heure à tout prendre pour arriver là-bas, et en prime un jus de pomme dans le jour de sa chambre. Il est mort, le pauvre homme, le 22 décembre, faisant fi des guirlandes et tout le tralala. Alors la verrière, parce que c'est une station, donc des Yvelines. Moi, j'ai grandi à...J'étais au Ménil-Saint-Denis. Et mon père, donc, se rendait à Paris et prenait le train, donc, à la Verrière. Ça me met environ une heure, donc une heure à tout prendre. En prime, un jus de pomme, parce que quand il travaillait, donc, c'était vraiment une séance de travail, hein, et que Beckett, enfin, moi, j'ai accompagné une fois mon père.Chez Beckett et effectivement, il lui servait soit un verre de jus de pomme ou de jus d'orange. Et dans le jour de sa chambre, parce que Beckett habitait boulevard Saint-Jacques, et qu'il avait vu sur la prison de la santé. Mon père a décrit une fois dans ses notes la vue qu'il avait. Hein. Une vue sur la prison de la santé et vue sur l'observatoire. C'est intéressant en fait, par rapport à l'œuvre de Beckett, donc l'observatoire, donc l'univers, et puis la prison. Hein. Une fois il était chez Beckett, et tout à coup il y a eu un rayon de soleil comme ça, dans la. Mais comme un éclair, enfin, et il a vu comme Beckett s'est levé et allé vers la fenêtre et a fait ça. Pourquoi? Parce que c'était des prisonniers de la prison de la santé, hein, qui, avec des miroirs, captaient donc le soleil pour faire un signe aux gens, pour avoir un contact. Et donc, en prime un jus de pomme dans le jour de sa chambre. Il est mort, le pauvre homme, donc Beckett, le pauvre homme, et par rapport à son œuvre, le pauvre homme, le 22 décembre, parce qu'il est mort le 22 décembre, donc il y a 20 ans, faisant fi des guirlandes et tout le tralala. Les guirlandes, donc c'est Noël, faisant fi des guirlandes et tout le tralala. Alors là, c'est authentique parce que je me souviens que quand Beckett a fait, il n'a pas fêté, mais quand on a fêté le 75e anniversaire de Beckett, Beckett est allé, a fui en fait toutes les cérémonies, hein, et il est allé dans sa maison de campagne, enfin dans sa maison qui était à Ussy, dans la Marne, et il a dit à mon père justement pour échapper à tout ce tralala. Le tralala. Donc quand je dis le tralala, c'est vraiment une citation de Beckett. Hein. Donc une heure à tout prendre pour arriver là-bas et en prime un jus de pomme dans le jour de sa chambre. Il est mort le pauvre homme, le 22 décembre, faisant fi des guirlandes et tout le tralala.
Alors il arrivait à Philippe d'interpréter des textes de Samuel Beckett dont il vient de nous parler, des textes en prose de Samuel Beckett dont il arrivait à nous faire saisir toute l'intensité poétique, et puis aussi il défendait, si l'on peut dire, ou en tout cas il nous a fait connaître, un auteur suisse-allemand qui s'appelle Peter Bixell, qui est un auteur qui était aussi journaliste, qui a écrit des nouvelles et qui avait une relation tout à fait particulière à Paris parce qu'il avait eu beaucoup de difficultés à apprendre la langue française, et à cause de ça, il ne voulait pas venir à Paris parce qu'il avait ressenti son rapport avec la langue française comme une humiliation. Heureusement, une fois encore, grâce aux traducteurs, on a des versions compréhensibles pour nous de l'œuvre de Bixell, et c'est une œuvre qui, pour ma part, me semble convenir tout à fait à Philippe, parce que justement, elle est à la lisière entre cette sorte de précision et de sérieux presque qui pourrait faire penser pratiquement à de l'horlogerie suisse, et puis aussi une fantaisie complètement délirante et dévergondée qui épuise en fait la rationalité, c'est-à-dire qu'elle va dans le sens de la rationalité, mais elle y va tellement loin qu'au bout d'un moment, elle confine à l'absurde.
Bexel écrit des histoires pour les lire ensuite dans les cafés d'où elles sont nées. Car l'histoire est, selon lui, à la base de toutes les œuvres. Et il ne faut pas mélanger les histoires avec l'histoire. La révolution finit quand les histoires rentrent dans l'histoire. Par ailleurs, le comique, l'humour, font partie intégrante de la littérature de Bexel. Ainsi écrit-il dans Les histoires enfantines, à la manière d'un enfant, mais en poussant le style à la logique particulière jusqu'à son paroxysme. L'enfant ne fait pas la différence entre le concevoir et le réaliser. les personnages de Bexel non plus. Leurs raisonnements fortement empruntés à la précision suisse sont à la base d'une logique inébranlable. Mais qu'ils poussent un peu loin la logique et l'histoire bascule dans l'absurde.
Et après ces quelques mots donc consacrés à l'œuvre de Peter Bixell et à sa personne, on va écouter maintenant le texte lui-même qui s'appelle « Vous avez le bonjour » de Yodok, qui était un texte qui touchait particulièrement mon père, qui, en dehors de son aspect burlesque, y voyait, je crois, avant tout, l'histoire d'amour entre un enfant et son grand-père. Vous avez le bonjour de Yodok, interprété par Philippe Topoven.
Vous avez le bonjour de Yodok. De l'oncle Yodok. De l'oncle Yodok, je ne sais rien. Si ce n'est qu'il était l'oncle de mon grand-père. Je ne sais pas comment il était fait. Je ne sais pas où il habitait, ni quel genre de travail il faisait. Je ne connais que son nom, Yodok. Et je ne connais personne d'autre qui s'appelle comme ça. Grand-père commençait toujours ses histoires en disant « Quand l'oncle Yodok vivait encore !» Ou bien « Le jour où j'ai rencontré l'oncle Yodok !» Ou encore « Le jour où l'oncle Yodok m'a fait cadeau d'un harmonica. » En fait, il ne parlait jamais de l'oncle Yodok, mais seulement du temps où Yodok vivait encore, du jour où il avait rencontré Yodok et de l'harmonica que Yodok lui avait donné. Et quand on lui demandait « Mais qui était l'oncle Yodok ?» il répondait « Un homme avisé. » Ma grand-mère, en tout cas, ne connaissait pas cet oncle-là et mon père ne pouvait s'empêcher de rire quand il entendait son nom et grand-père se fâchait. Quand mon père riait, alors ma grand-mère disait « Eh oui, ce bon vieux Yodok !» Et grand-père était content. J'ai cru longtemps que l'oncle Yodok avait été garde forestier. Car un jour, comme je disais à grand-père « Je veux être garde forestier », il dit « Voilà qui ferait plaisir à notre oncle Yodok. » Mais quand une autre fois je lui dis que je voulais être mécanicien de locomotive, il dit la même chose et de même quand je lui dis que je ne voulais rien être du tout. Grand-père disait toujours « Voilà qui ferait plaisir à notre oncle Yodok. » Mais grand-père était un menteur. Je l'aimais bien, c'est vrai, mais au cours de sa longue existence, il était devenu un menteur. Souvent, il se dirigeait vers le téléphone, décrochait l'écouteur, composait un numéro et disait dans l'appareil « Jour, oncle Yodok, comment ça va, oncle Yodok ? Oncle Yodok, mais si, bien sûr, oncle Yodok !» Et nous savions tous qu'il faisait semblant. Et qu'en parlant, il gardait son doigt posé sur l'interrupteur. Grand-mère le savait aussi. Mais elle s'écriait quand même « Arrête donc de téléphoner, ça revient trop cher !» Alors grand-père disait « Il faut que je te quitte, oncle Yodok. » Il revenait en disant « Vous avez le bonjour de notre oncle Yodok. » Autrefois, il avait toujours dit « Quand l'oncle Yodok vivait encore. » Et voilà que maintenant, il en était à dire « Un de ces jours, il faudra que nous rendions visite à notre oncle Yodok. » Ou bien il disait « Notre oncle Yodok va nous rendre visite pour sûr. » Et il se donnait une tape sur le genou, mais ce n'était pas très convaincant. Il s'en rendait compte, alors il ne disait plus rien. Et laisser tomber, pour quelque temps, son Yodok. Et nous poussions un soupir de soulagement. Et puis ça recommençait. Yodok a téléphoné. Yodok disait toujours, Yodok est du même avis. Tiens, en voilà un qui porte le même chapeau que l'oncle Yodok. L'oncle Yodok aime bien se promener, l'oncle Yodok supporte les froids les plus grands, l'oncle Yodok aime les bêtes, il les aime, l'oncle Yodok va se promener avec elles par les plus grands froids, il va avec les bêtes, l'oncle Yodok supporte les froids les plus grands, il les supporte, l'oncle Yodok. Et quand nous, ces petits-enfants, nous nous approchions de lui, ne nous demandez pas combien font 2 × 7 ou comment s'appelle la capitale de l'Islande, mais comment s'écrit Yodok. Et Yodok s'écrit avec un grand Y et un K à la fin, mais ce qu'il y avait de plus terrible dans Yodok, c'était les deux O. On ne pouvait plus les entendre toute la journée, les hauts de Yodok dans la chambre de grand-père, et grand-père les aimait, les hauts de Yodok. Il disait « L'oncle Yodok écosse de gros haricots, l'oncle Yodok fait l'éloge du pôle Nord, l'oncle Yodok est un gros rigolo. » Et puis les choses se gâtèrent au point qu'il en vint à mettre des hauts partout. Il disait « L'oncle Yodok, on l'oncle Yodok. » Les gens avaient de plus en plus peur de grand-père. Il allait maintenant jusqu'à affirmer qu'il ne connaissait pas de Yodok, qu'il n'en avait jamais connu. C'était nous qui avions commencé, c'était nous qui lui avions demandé qui était l'oncle Yodok. Il était inutile de discuter avec lui, plus rien n'existait pour lui que Yodok. Déjà, il disait au facteur « Bonjour, monsieur Yodok », et puis moi aussi, il m'appelait Yodok, et bientôt après, tout le monde. Yodok lui servait de petit nom gentil. Mon cher Yodok. D'injure, maudit Yodok ou de juron, nom d'un Yodok, il ne disait plus j'ai faim, il disait j'ai Yodok, et par la suite il ne dit même plus je, il dit Yodok à Yodok. Il prenait le journal, ouvrait à la page des Yodok, à savoir des faits divers, et commençait sa lecture. Yodok, un Yodok qui s'est produit sur la Yodok, a fait deux Yodok, une Yodok qui venait de quitter Yodok et roulait en direction de Yodok, est entré en Yodok avec deux Yodok, le Yodok du Yodok, Yodok Yodok et son Yodok, Yodok Yodok ont été tués sur le Yodok. Grand-mère se bouchait les oreilles et criait « Je n'en peux plus, il me rendra folle !» Mais grand-père continuait. Il continua jusqu'à la fin de sa vie et il vécut très vieux. Et je l'aimais beaucoup. Et même à la fin, quand il ne dit plus rien d'autre que « Yodok », cela ne nous empêcha pas de nous comprendre très bien tous les deux. J'étais très jeune. Grand-père était très vieux. Il me prenait sur ses genoux et Yodok, Yodokait la Yodok du Yodok, Yodok, c'est-à-dire il me racontait l'histoire de l'oncle Yodok. Et je l'aimais beaucoup. Et tous ceux qui étaient un peu plus vieux que moi, mais plus jeunes que grand-père, n'y comprenaient rien et ne voulaient pas qu'il me prenne sur ses genoux. Mais quand il est mort, j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit à tout le monde qu'il ne fallait pas inscrire sur sa tombe Friedrich Klauser, mais Yodok, Yodok, c'était cela. Ce que grand-père avait voulu. Mais le malheur, le grand malheur, c'est que cette histoire n'est pas vraie. Le grand malheur, c'est que mon grand-père n'était pas un menteur et il n'a pas non plus vécu très vieux. J'étais tout petit quand il est mort et je me souviens d'avoir entendu dire un jour quand l'oncle Yodok vivait encore. Et ma grand-mère, que je n'ai jamais aimée, lui cria sèchement « Ah non, arrête avec ton Yodok !» Alors grand-père devint tout triste et finit même par s'excuser. Et moi, je me mis dans une colère terrible. La première dont je me souvienne, je m'écriais « Si moi, j'avais un oncle Yodok, je ne parlerais plus de rien d'autre !» Et si mon grand-père avait fait comme ça, il aurait peut-être vécu plus vieux. Et j'aurais encore un grand-père. Et l'on se comprendrait très bien. Les deux.
Et en préparant cette émission, je suis tombé sur un autre enregistrement que j'avais de la voix de Philippe. Il interprète pour nous un poème de René Guicadou en hommage à son père. Décidément, les pères auront été très présents dans cette émission. Il s'intitule « L'automne ». Le père de René Guicadou était instituteur, tout comme son fils.
Automne, odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison. À 7 ans, comme il faisait bon après d'ennuyeuses vacances se retrouver dans sa maison. La vieille classe de mon père, pleine de guêpes écrasées, sentait l'encre, le bois, la craie et toutes ces merveilleuses poussières amassées par tout un été. Au temps charmant des brumes douces, des gibiers et d'un vol d'oiseaux. Le vent souffle sous le préau. Mais je tiens entre paume et pouce une rouge pomme à couteau.
Alors quand j'ai préparé cette émission, quand j'ai eu l'idée de préparer cette émission, j'ai écrit à mon ami Philippe Topoven, qui se trouve maintenant à Berlin et avec qui je n'avais pas correspondu depuis plusieurs années, et je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer des enregistrements de poèmes qu'il interpréterait. Et il a demandé à un ami à lui, qui très gentiment a essayé de réaliser mon vœu, c'est Saïd Mohamed Razoul Moudjahid, qui a essayé d'enregistrer, mais le résultat n'était pas tout à fait, disons, à la hauteur de la qualité que j'espère pour ce podcast. Et donc, j'avais peur que ça soit inintelligible. Je ne vous les ai pas passés, mais Philippe m'a dit, n'oublie pas de remercier quand même mon ami Saïd Mohamed Razoul Moudjahid. Alors voilà qui est fait. Et puis, Philippe m'a envoyé aussi le texte d'un poème que j'avais écouté au Club des Poètes, interprété par lui, un poème de lui, et dont j'aurais voulu qu'il l'enregistrât pour moi, mais il n'a pas réussi à le faire. Donc il m'a envoyé le texte, et c'est moi qui vais le dire, mais je le regrette un peu parce que il y a vraiment une manière de dire chez Philippe qui est très particulière, comme vous avez peut-être pu le remarquer en écoutant le début de cette émission. Et j'aurais vraiment voulu que ce texte vous soit passé par l'auteur lui-même. Mais c'est pas grave, je vais m'y essayer quand même. C'est un poème où il raconte sa cohabitation avec un coléoptère. Je croyais que c'était une libellule en fait, c'est ce que j'avais retenu, mais Philippe m'a dit non, non, je n'ai aucun poème qui contient le mot libellule, je n'ai qu'un poème qui contient le mot coléoptère. Et le voici. Je cohabite avec un coléoptère. Quand je le quitte, il prend ses aises, et ensuite il file à l'anglaise, avec ses pattes droites et incurvées. Il en a trois de chaque côté. Il pique un sprint, à croire qu'on peut se sentir bien chez les autres. Il m'exaspère, je vitupère et je laisse faire. Mais comme il repart de plus belle, il va finir sous ma semelle. Se sentant pris en filature, il court à toute allure, va se planquer derrière l'armoire, avec son compère le cafard, pour détaler sans crier gare sur l'une des arêtes du placard en formica, et continuer en stop and go, de la cuisine au lavabo, en attendant l'instant propice pour qu'enfin il ressurgisse, monte sur la poubelle et la quitte, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il va qu'à ses travaux en catimini, par la grâce de Kafka ou de Sakyamuni, si tous les soirs, tant que je le tolère, je cohabite avec un coléoptère.
C'était Et vive la poésie, l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Roney.
Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez. Si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi tout de suite comme on écrit à un ami et nous serons peut-être un peu moins seuls. Bonsoir, à la semaine prochaine et vive la poésie!